Bonsoir à tous, à la une ce soir. Le masque vit ses dernières heures dans les transports en commun. Après 2 années de port obligatoire, la mesure sera levée demain. Derrière le masque, sourire de cette voyageuse à Limoges.
C'est un peu un soulagement parce que là il va commencer à faire la canicule et du coup il va faire chaud. Des fois je vais le garder parce que on sait jamais, on peut l'attraper encore. Il y aura du monde déjà.
Et reportage dans une minute. La sécheresse, l'inflation et leurs conséquences. Inquiétude des associations qui assurent l'aide alimentaire en France. Les dons sont déjà moins nombreux, nous dira le président des Restos du Cœur, et nous détaillerons la carte des départements les plus touchés par le manque d'eau. C'était la crainte de Vladimir Poutine au moment d'envahir l'Ukraine. Elle devient réalité. L'élargissement de l'OTAN, la Finlande officiellement candidate depuis aujourd'hui, la Suède, elle, a fait un pas de plus. L'OTAN promet que cela ira vite. Explication à suivre. Dans ce journal également, la première vente aux enchères de baskets sneakers en Europe, c'était cet après-midi à Paris. Nous ferons aussi une large place au sport avec Winnie Claret. La Rochelle disputera la finale de la Coupe d'Europe de rugby. Ce sera le 28 mai à Marseille. La joie de son capitaine Grégory Aldrit.
On savait que ça serait dur. De toute façon, demi-finale, c'est jamais facile. Et ça a été physique jusqu'au bout. En plus, avec une chaleur comme ça, c'était dur. J'espère qu'il fera un peu plus frais à Marseille quand même.
La Rochelle, vainqueur du Racing cet après-midi à Lens, 20-13. En revanche, déception pour les pilotes français au Grand Prix de France Moto du Mans. Et puis Djokovic, facile vainqueur du tournoi de Rome, à une semaine du coup d'envoi de Roland-Garros. Dans notre agenda ce soir, nous nous arrêterons à Cannes, ouverture du festival après-demain. Nous nous demanderons pourquoi il est si difficile de sélectionner davantage de femmes réalisatrices. Et puis à 19h30, les questions des enfants dans les petits bateaux.
Bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai 12 ans. Je me demande si on est intelligent, donc si l'intelligence est innée, ou si on devient intelligent.
Et les réponses au micro de Noël Bréham. Le 19h, c'est parti.
France Inter.
C'est l'objet qui ne nous quitte plus depuis 2 ans dans notre poche ou dans notre sac quand il n'était pas le plus souvent devant notre bouche. Le masque que vous pourrez oublier demain matin sans conséquence puisqu'il ne sera plus obligatoire dans les transports en commun, métro, bus, train, tram, taxi ainsi que dans les avions en France mais aussi en Europe. Conséquence de la diminution du nombre de cas de Covid. En moyenne 34 000 nouveaux cas par jour cette semaine contre 42 000 la semaine dernière. Enfin, des visages et des figures, voilà qui réjouit ces Rochelais rencontrés dans un bus par Sophie Potvin.
On a pris l'habitude, mais par exemple quand on a oublié qu'on ne peut pas rentrer dans le bus et qu'on ne peut pas du coup rentrer chez nous, là ça devient compliqué.
Emma n'est pas la seule à être soulagée. La fin de l'obligation du port du masque arrange aussi Sabrina, qui dépend des transports en commun.
Là, les chaleurs arrivent et tout ça, c'est un peu... Quand on a un train qui met 5 heures de route...
C'est fatigant.
Fatigant, ouais.
À 76 ans, Guy ne se déplace jamais sans son masque ni sa canne.
Si on est que 2 ou 3 dans le bus, je le porterai pas, mais si on est 50, je le porterai.
Ouais.
C'est jamais, ben, vous savez, hein, tomber malade à ce âge-là, c'est pas une bonne idée du tout. Non.
Les conducteurs sont aussi soulagés. Ces dernières semaines, Gaël multipliait les rappels à l'ordre à la montée de son bus.
Il y avait un vrai ras-le-bol et les gens ne voulaient même plus le porter ou le mettaient en dessous du menton. On était obligé de leur rappeler qu'il fallait porter le masque sur la bouche, sur le nez. Et c'était compliqué pour eux parce qu'il y avait vraiment un gros ras-le-bol depuis plus de 2 ans maintenant.
La mesure était attendue et arrive au bon moment avec l'arrivée de la chaleur.
Sophie Potvin, France Bleu, La Rochelle, le port du masque reste obligatoire en revanche dans les établissements de santé à l'entrée desquels un pass sanitaire est demandé à l'hôpital par exemple ou dans les EHPAD. En Chine, on en est très loin même si la ville de Shanghai desserre légèrement l'étau sur ses habitants. Les commerces vont commencer à rouvrir progressivement à partir de demain mais les 25 millions d'habitants, eux, restent confinés. Ils le sont depuis un mois et demi maintenant. En France, la crise du Covid et la paralysie de l'économie avaient souligné le rôle essentiel des associations humanitaires dans la distribution d'aide alimentaire. Ces dernières semaines, la hausse des prix provoque le même effet, davantage de demandes, alors que dans le même temps, les dons des producteurs chutent. C'est ce que constate le président des Restos du Cœur, Patrice Douré. 142 millions de repas distribués chaque année. Il se demande comment il va pouvoir nourrir ses bénéficiaires dans les prochains mois.
En moyenne, nos coûts d'achat ont augmenté d'environ 10%. Sur certains produits, c'est beaucoup plus cher, sur d'autres, c'est inférieur. Notre crainte, c'est que cela continue et surtout qu'on ait des pénuries de produits sur un certain nombre de produits essentiels aussi. Et puis la deuxième chose, c'est que, par exemple, on bénéficiait jusqu'à présent de dons de producteurs de lait qui sont très généreux. Et on comprend aujourd'hui que leurs difficultés également, les dons ont été divisés par 5 en un an. Je peux comprendre qu'il soit beaucoup plus difficile aujourd'hui pour des producteurs locaux. On fait beaucoup appel aussi à la production locale de pouvoir faire des dons lorsque, un, les conditions climatiques ne permettent peut-être pas de produire autant, et puis deux, lorsque les conditions économiques nécessitent que ces produits soient d'abord commercialisés et vendus avant même de pouvoir être donnés à des associations. Et pour nous, il n'est pas question, bien évidemment, de retirer ces produits, tels que le lait, par exemple, ou les steaks hachés, de nos gammes de produits. Donc, nous les achetons et nous les achetons plus cher.
Patrice Douré, le président des Restos du Cœur. La production alimentaire française qui pourrait souffrir des conditions climatiques actuelles, chaleur et manque de pluie menacent les récoltes. Notre pays connaît un épisode de sécheresse très précoce cette année. De nombreux départements ont déjà pris des mesures et Victor Dolande, peu de régions sont épargnées.
En Provence-Alpes-Côte d'Azur, la sécheresse est déjà un niveau très inquiétant. Les prélèvements d'eau ont été réduits de 50%. C'est le cas dans la Drôme, le Vaucluse et au nord-est d'Aix-en-Provence, l'endroit actuellement le plus sec en France. L'eau ne peut être utilisée que pour des usages prioritaires comme la santé, la sécurité civile et l'eau à boire pour les habitants, bien évidemment. Après Provence-Alpes-Côte d'Azur, où presque tous les départements sont concernés, le nord de la France est également très durement touché. Le Pas-de-Calais et le nord sont tous les deux concernés par des restrictions d'eau. Même situation en Indre-et-Loire, en Loire-Atlantique, dans le Morbihan, le Maine-et-Loire, où les particuliers sont invités à faire des économies d'eau. Situation également très délicate en Charente, Charente-Maritime et dans la Vienne et l'Ain. Dans ces deux derniers départements, les agriculteurs n'ont plus le droit d'arroser leurs récoltes que 3 jours par semaine. Au total, les 2/3 de la France connaissent déjà des sols secs à très secs en raison d'un manque quasi continue de pluie depuis septembre dernier. Et dans les prochains jours, la liste des départements qui vont connaître des restrictions d'eau pourrait très certainement s'allonger.
Explication Victor Dolande. Le pouvoir d'achat au cœur de la campagne des législatives et cette nouvelle proposition de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Il propose aujourd'hui de porter le niveau du SMIC à 1 500 € net par mois. Durant la présidentielle, il proposait 1 400. Proposition désormais caduque, dit-il, compte tenu des effets de l'inflation. Faut-il y voir l'effet de la demande d'adhésion de la Finlande formulée aujourd'hui? Est-ce lié au recul des troupes russes en Ukraine autour de la région de Kharkiv ou bien est-ce uniquement pour impressionner la Russie? Toujours est-il que le secrétaire général de l'OTAN affiche son optimisme aujourd'hui à Berlin. L'Ukraine peut gagner la guerre, dit Jens Stoltenberg. L'OTAN qui ouvre les bras à la Finlande et à la Suède, les deux pays historiquement neutres, demandent désormais la protection de l'Alliance Atlantique, demande exprimée formellement aujourd'hui par la Finlande. En Suède, c'est le parti social-démocrate au pouvoir qui approuve l'adhésion. Un tournant pour ces deux pays, Pierre Benazé.
Selon le président et la première ministre de Finlande, la candidature à l'OTAN est une décision historique et le secrétaire général de l'OTAN est d'accord avec Sauli Niinistö et Sanna Marin. Selon Jens Stoltenberg, ce serait un moment historique si en plus la Suède décidait effectivement de se joindre à la Finlande. Pour le secrétaire général, lui-même norvégien, l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance Atlantique viendra compléter le dispositif puisque désormais la totalité des pays nordiques devraient se retrouver membres de l'OTAN. La décision finlandaise vient renforcer la sécurité commune, affirme-t-il, référence à la nouvelle donne géopolitique en devenir aux portes de la Russie et en référence aussi à l'importante capacité militaire finlandaise. Pour Jens Stoltenberg, ceci démontre en tout cas que l'agression ne paie pas et que la porte de l'OTAN est ouverte à tous. Selon lui d'ailleurs, la Turquie n'a pas l'intention de bloquer l'accession de la Finlande à l'OTAN. Pierre Benazet, France Inter, à Bruxelles.
Pour qu'un pays adhère à l'OTAN, sa candidature doit être acceptée par tous les pays membres à l'unanimité. Pour la Macédoine du Nord, 30e et dernier pays à avoir adhéré, le processus a duré 1 an, mais l'OTAN a promis cette fois un processus rapide, car la situation est exceptionnelle, ce qui rend d'ailleurs la réplique russe délicate, souligne Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
C'est historique parce que la Finlande, c'est le symbole même du pays neutre qui, pendant la guerre froide, n'a pas voulu choisir entre Moscou et Washington. Et donc désormais, la Finlande se débarrasse de ce statut de longue durée de neutralité et va devenir membre de l'OTAN. Et il est probable que dans la foulée, la Suède va suivre.
Comment les Russes peuvent réagir?
On peut dire que leurs marges de manœuvre sont limitées. Ils sont déjà militairement enlisés en Ukraine. On les voit mal se lancer dans une nouvelle guerre contre la Finlande, qui, elle, du coup, aura la protection des pays de l'OTAN. Donc, il y aura certainement des déclarations intempestives de la part de Poutine, peut-être des cyberattaques. Mais au final, mis à part les protestations verbales, les capacités de réaction de la Russie seront en réalité limitées. Il va y avoir une coupure très nette entre la Russie et tous les autres. Ce ne sera pas un rideau de fer qui passera au milieu de l'Europe, mais un rideau de fer qui passera entre la Russie et le reste de l'Europe.
Pascal Boniface, joint par Christian Chesneau, les frontières de l'OTAN qui pourraient s'élargir, celles de l'Union européenne, elles seront renforcées et la Suisse va y contribuer davantage. Les Suisses ont dit oui aujourd'hui par référendum à une contribution accrue de leur pays à Frontex, l'agence européenne des frontières. La Suisse fournira plus de personnel et plus d'argent, 72% de oui selon les estimations. Les partis écologistes et de gauche n'ont pas convaincu les électeurs, Jérémy.
Les opposants au renforcement de Frontex n'ont pas caché leur déception à l'annonce des résultats. Ils parlent d'un vote honteux pour un pays qui se réclame d'une longue tradition humanitaire, Frontex étant selon eux engagé dans une véritable guerre contre les migrants. En face, les partisans du oui à Frontex reconnaissent que l'agence n'est pas parfaite. La réforme prévoit d'ailleurs l'augmentation du nombre d'observateurs chargés de vérifier que les gardes-frontières respectent bien les droits humains. Mais la vérité, c'est que cet argument humanitaire n'a pas pesé lourd face au risque que la Suisse soit exclue de l'espace Schengen, ce qui aurait techniquement pu arriver en cas de victoire du non. Un scénario catastrophe pour l'économie suisse, très hypothétique, mais jugé suffisamment crédible par les électeurs. Aucun canton suisse, même ceux classés à gauche, n'a d'ailleurs dit non à Frontex. À Genève, Jérémy Lanche, RFI pour France Inter.
Aux États-Unis, la condamnation de Joe Biden au lendemain d'une tuerie raciste qui a fait 10 morts, en majorité des Noirs américains. C'était à Buffalo, dans l'état de New York, selon le président américain. La haine qui demeure est une tache sur l'âme de l'Amérique. Fin de citation. C'est un nouveau temps fort dans l'année Molière au théâtre. L'une de ses pièces, Georges Dandin ou Le mari confondu, est jouée en ce moment au théâtre de l'Athénée à Paris. Mise en scène de Michel Faux. Particularité, cette pièce est proposée dans sa version initiale, comme elle a été présentée en 1688 lors de sa création, Stéphane Capron.
Cette comédie-ballet a été présentée à Versailles lors du grand divertissement royal devant Louis XIV pour célébrer le traité d'Aix-la-Chapelle. Michel Faux tenait à restituer l'œuvre comme à sa création.
À l'époque, la cour de Versailles s'identifiait aux chanteurs. C'est pour ça qu'on les a habillés avec des costumes de cour. Et ils se moquaient des personnages de la pièce, des bourgeois, ils se moquaient des paysans, parvenus, ils se moquaient des valets, ils se moquaient des aristocrates de province, ils se moquaient des libertins de pacotille et... Donc en fait, c'est pour ça que les personnages sont tous assez négatifs, assez méchants en fait.
Les musiques de Lully viennent ponctuer la pièce. Caroline Arnaud est l'une des sopranos de l'ensemble Marguerite.
C'est vraiment un tragédien. Il y a un lien au texte, aux mots, à l'épopée, à la destinée de ces personnages qui est de toute façon extrêmement opératique. Dans cette partie-là, pour nous, c'est un petit peu différent puisque c'est des intermèdes musicaux qui sont vraiment complètement déconnectés de l'argument de la pièce. Michel a fait en sorte qu'on puisse quand même se croiser ou en tout cas qu'on puisse être une sorte d'image un petit peu déformée, un peu onirique peut-être de ce qui se passe pour Dandin. On est quand même très connecté avec ce qui se passe sur le plateau.
Michel Faux réussit un coup de maître avec ce Dandin totalement baroque, chatoyant et magnifiquement chanté.
Georges Dandin ou Le mari confondu, c'est jusqu'au 27 mai au théâtre de l'Athénée à Paris. C'est une vente historique qui a eu lieu cet après-midi chez Drouot à Paris. Pour la première fois en Europe, des baskets sneakers ont été adjugées aux enchères. Plus de 200 paires de chaussures de luxe, jamais portées, vendues comme des œuvres d'art sous les yeux de Faustine Calmel.
205 paires de Nike, Jordan, Adidas, mais aussi Chanel et Dior à s'offrir. Les enchères débutent doucement.
La Dunk High Game Rail est à 160, 180 l'enchère.
Les acheteurs néophytes se toisent.
Contre vous et au téléphone.
La paire la plus chère part à un peu plus de 16 000 euros. Aubin a lui craqué pour des Nike.
1000 euros, bravo.
1240 euros avec les frais d'enchères, mais c'est son boulot.
Vu que ça fait longtemps que je suis dans la sneaker, je sais où trouver les paires à bon prix. Là, il y a quelques produits qui sont un peu plus difficiles à trouver, comme du coup celle que j'ai achetée pour l'instant, la Vapormax, qui peut être intéressante à vendre. Prix de revente, je pense qu'elle est autour de 1800, 2000 à peu près.
Parmi ses clients, Aubin annonce des humoristes et des footballeurs, y compris en équipe de France. Plus modeste, Julien s'est acheté une paire à 270 euros, souvenir de sa jeunesse.
Parce que j'ai connu ça dans les années 90, que ça m'amène une trentaine d'années en arrière.
Et il apprécie le décorum.
C'est assez surprenant de voir un commissaire, priseur, faire la vente, alors que traditionnellement, on pourrait acheter des montres, des bijoux ou des tableaux. Ça donne envie de s'y intéresser un peu plus et de comprendre comment ça fonctionne.
C'est aussi l'objectif de son neveu. Ethan, 16 ans, reparti bredouille, malgré ses 400 euros d'argent de poche.
Un peu déçu, mais c'est les choses comme ça. Je pense que je vais revenir. Le budget, il va encore augmenter parce que j'ai compris que 400, c'était pas assez.
Il faudra donc économiser d'ici décembre et l'organisation des prochaines enchères.
Faustine Calmel. Et puis, si vous vous levez tôt demain matin, vous pourrez assister à une éclipse totale de lune visible entre 5h29 et 6h54. C'est précis. Le soleil, la Terre et la Lune seront alors parfaitement alignés et celle-ci prendra une teinte rouge en espérant que les nuages ne gâchent pas trop le plaisir des astronomes. L'actualité sportive à 19h15. Bonsoir Winnie Claret.
Bonsoir.
Pas d'éclipse pour La Rochelle qui est désormais à une marche du Graal européen.
Les rugbymen rochelais tiennent leur ticket pour la finale de Coupe d'Europe après avoir battu le Racing 92-20 à 13 cet après-midi. Fanny Lechevestrier, vous étiez au stade Bollard à Lens. Les Maritimes ont écœuré les Racingmen en toute fin de match.
Avec un essai inscrit à la dernière seconde par Aya West qui permet aux Rochelais d'atteindre leur deuxième finale de Coupe d'Europe d'affilée. Un exploit salué il y a quelques minutes par le manager des Maritimes, Ronan O'Gara. Des Rochelais bien aidés toutefois pour y parvenir par l'indiscipline du Racing qui a joué 10 minutes à 13 contre 15 après deux cartons jaunes. Mais pour mieux mesurer la performance rochelaise, il fallait justement voir la détresse à la fin du match des joueurs du Racing longtemps, genoux à terre et tête basse, à l'image du capitaine Gaël Ficou.
Elle est immense. On est si près du but, en plus à Marseille, c'était un... En tout cas, pour moi, c'était quelque chose de particulier. J'aurais rêvé d'y être, mais bon, c'est la vie, elle est dure, elle est pas facile. Voilà. À moi de me relever, à nous de nous relever pour aller chercher quelque chose d'extraordinaire dans le top 14. Si moi, le premier qui suis capitaine de l'équipe, je baisse la tête, qu'est-ce que vont faire mes coéquipiers?
Les Franciliens, quatrième du championnat, qui vont vite devoir se remobiliser, car pas encore certains d'être qualifiés pour les phases finales.
Fanny Lechevestrier à Lens pour Inter, La Rochelle donc en finale pour la deuxième fois de son histoire. Les jaunes et noirs qui rêvent de leur tout premier titre européen. La marche est immense, on le rappelle, face aux ogres irlandais du Leinster qui ont fait tomber le stade toulousain hier après-midi. Finale qui se jouera au stade Vélodrome de Marseille le 28 mai prochain. Et la veille, ce sera une finale franco-française entre Lyon et Toulon en Challenge Cup, la petite coupe d'Europe déjà au Vélodrome.
À une semaine de Roland-Garros, le Serbe Novak Djokovic s'adjuge le tournoi de Rome.
Première victoire de la saison pour le numéro 1 mondial sur la terre battue du Masters 1000 italien. Il a battu le grec Stefanos Tsitsipas en 2-7. Avant lui, c'est la polonaise Iga Swiatek qui a pris le meilleur sur la tunisienne Ons Jabeur et qui part ultra favorite à Roland-Garros. L'Italie à vélo aussi. Le coureur français Romain Bardet de l'équipe DSM, désormais 3e au classement général du Giro après la 9e étape. Étape remportée par l'Australien Jay Hindley au sommet du Blocos dans les Abruzzes.
Et un autre français, Guillaume Martin, 6e de ce général. En MotoGP, pas de podium pour les Français au Mans.
Malgré les 110 000 fans chauffés à blanc qui ont poussé tout le week-end derrière Fabio Quartararo et Johan Zarco, le champion du monde de Yamaha arrive au pied du podium 4e après un très mauvais départ sur le circuit Bugatti.
Bon, je vais pas dire une grosse déception parce que tout le week-end on a été les plus rapides, mais une petite erreur et ton résultat en course est terminé, donc c'est plus de la frustration qu'une déception, mais sincèrement je suis même pas énervé parce que c'est quelque chose que je suis en train de m'habituer de dire voilà, c'est, j'ai pas le droit à l'erreur, et bien sûr que c'est de l'expérience prise, c'est pas des bons moments à passer, mais c'est comme ça, il va falloir être fort.
Fabio Quartararo au micro de Guillaume Batin qui conserve pour l'instant la première place, hein, pas Guillaume Batin,
oui,
Fabio Quartararo a priori, hein, première place du championnat du monde. Le pilote de Bugatti, Johan Zarco, qui a terminé 5e aujourd'hui, se classe à la 6e place du général.
Du foot également à l'affiche ce soir, une finale qui est en train de se transformer en purge en Coupe de France féminine.
Les Auvergnates 10h, club de 2e division, sont en train de se faire corriger par le Paris Saint-Germain. Cédric Guillou, vous suivez le match à Dijon pour Inter. Il faut dire qu'Isor est l'invité surprise de cette finale, Cédric.
Ah oui, effectivement, Winnie, hein, c'est seulement la deuxième fois qu'un représentant de la Division 2 féminine atteint la finale de la Coupe de France, 13 ans après Le Mans. Mais voilà, Isère, c'est le plus petit budget de D2 avec 270 000 euros seulement. Une ville de 12 000 habitants, plein centre de la France, dans l'agglomération de Moulins. Seulement 3 contrats fédéraux dans cette équipe d'Isère au sein de l'effectif, hein, comparé au Paris Saint-Germain où toutes les joueuses sont professionnelles. Cette finale, c'est un événement, vous le disiez. Pour le club, pour les supporters. Il y en a 1900 qui sont présents ce soir pour assister à cette première finale dans l'histoire du club. Malheureusement, ça tourne au cauchemar pour les Iséroises, puisque le Paris Saint-Germain menait déjà 4-0 après 11 minutes de jeu, 5-0 après 14 minutes de jeu. On en a 6 pour le moment, avec notamment un triplé de Marie-Antoinette Katoto pour le PSG qui se dirige vers la troisième finale gagnée de Coupe de France de son histoire.
Et du côté de Paris, Cédric, on pourrait bien voir pleuvoir les lauriers hein, ce soir. 30e cérémonie des trophées UNFP, les Oscars du foot français, pour élire nos meilleurs joueurs, entraîneurs et arbitres. Kylian Mbappé, hyper favori pour le prix du meilleur joueur de Ligue 1 avec le PSG, va-t-il provoquer un tremblement de terre ce soir? L'attaquant n'a toujours pas dit où il jouerait la saison prochaine.
Et il pourrait donc peut-être, pourquoi pas, s'exprimer ce soir. Alors on sait que l'un des rêves de Kylian Mbappé, c'est par exemple de disputer les Jeux en 2024.
Absolument.
À Paris, avec l'équipe de France olympique de football. La France prépare déjà cette échéance avec un objectif relevé, se hisser dans le top 5 des nations. Et pour cela, le sport français fait appel aux meilleurs entraîneurs du monde dans chaque discipline. Illustration ce soir avec l'aviron français des désormais dirigé par une légende, l'Allemand Jürgen Grobler, arrivé en octobre dernier. C'est le long format de ce soir, signé Jérôme Val.
Ils sont tous là, les rameurs français sélectionnés pour préparer les Jeux de Paris. Entraînement collectif à Vers-sur-Marne, le futur site olympique pour l'aviron.
Bon repère, dernier coup.
Les entraîneurs de l'équipe de France suivent leurs embarcations à vélo le long du bassin. Dans leur roue, le nouveau consultant haute performance des Bleus, Jürgen Grobler, observe.
On regarde la souplesse du mouvement, comment l'athlète apporte la puissance. L'athlète et le bateau ne doivent faire qu'un, il faut bouger avec le bateau.
L'Allemand de 75 ans est une légende vivante de l'aviron. Coach de l'Allemagne de l'Est dans les années 70 et 80, puis de la Grande-Bretagne pendant 30 ans, il a décroché 12 fois l'or olympique avec ses rameurs. Jürgen Grobler a suivi attentivement le sacre du double français Mathieu Androdias et Hugo Boucheron à Tokyo.
C'était au-delà de mes attentes, une performance incroyable. Gagner en 6 minutes, c'est un nouveau record olympique. Et puis, j'ai aussi regardé le double féminin poids léger, c'était une course fantastique.
Laura Tarantola et Claire Beauvais qui ont, elles, remporté l'argent sur le double féminin poids léger l'été dernier. La priorité pour le nouveau consultant des Bleus, c'est de rempiler en 2024. Pour cela, il a fallu revoir leur méthode d'entraînement. Pas sur le fond, mais dans l'intensité, nous explique Camille Ribes, la coach du 4 de couple féminin.
On s'était quitté en fait avec les filles à Tokyo en disant que l'année après les Jeux, fallait mettre l'accent sur le physique. Et là, avec 3 sessions par jour, avec les collations qui aident aussi à tenir le choc, et ben on peut appuyer cette exigence physique.
Un renouveau qu'attendait le champion olympique Mathieu Androdias.
Moi, je fais partie de la génération qui a un petit peu, je pense, épuisé nos façons de faire. Le modèle un petit peu français, je pense qu'on est allé au bout d'une logique qui fonctionne, hein, parce qu'elle nous a emmené quand même des titres majeurs, donc pas de doute là-dessus. Mais pour moi, ça arrive au bon moment. C'est cette fraîcheur dont j'avais besoin pour continuer. Et il arrive d'un système qui est très professionnel. Donc c'est un petit peu le choc et des cultures et des systèmes.
Ça a été plus compliqué au départ pour Claire Beauvais. La vice-championne olympique a dû s'adapter.
Quand on a vu le programme, au début, on s'est dit mais c'est pas du tout ce qu'on fait d'habitude. Ça a tout chamboulé le programme. Mais bon, apparemment, ça marche. Donc franchement, je vais pas me plaindre. Et en même temps, c'est quelqu'un de très humain. Donc il adapte vraiment beaucoup à l'athlète. Et il sait que on n'est pas des machines, il nous le répète souvent. Ça engage à avoir confiance en lui, quoi.
Une confiance entre le coach allemand et ses rameurs qui a porté ses fruits jusqu'à présent. Jürgen Grobler est l'entraîneur le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques, toutes disciplines confondues.
Un long format sport signé ce soir Winnie Claret et Jérôme Val, qui est aussi à retrouver sur franceinter.fr. On en vient au temps fort de l'actualité de la semaine à venir. La fin du port du masque obligatoire demain dans les transports, je vous en ai parlé. La nomination d'un Premier ministre attendue en début de semaine et la composition dans la foulée du gouvernement. En Ukraine, mardi aura lieu le premier procès d'un soldat russe accusé de crimes de guerre à Paris. Le procès des attentats du 13 novembre reprendra mardi également avec le témoignage très attendu des membres du groupe Eagles of Death Metal sur scène ce soir-là au Bataclan. Mardi encore, débute à Cannes le 75e festival du cinéma très musical, avec un film événement sur la vie d'Elvis et un documentaire consacré à David Bowie. C'est le film Coupé de Michel Hazanavicius qui ouvrira cette quinzaine. Avec une question qui revient avec insistance, Alexis Demeyer, le festival de Cannes va-t-il encore longtemps pouvoir se passer des films produits par les plateformes comme Netflix ?
Blonde, le très attendu biopic de Marilyn Monroe avec Ana de Armas et Adrienne Brody ne sera pas projeté sur la croisette. Contrairement à la Mostra de Venise, le Festival de Cannes interdit toujours aux films de plateforme de concourir et Netflix, en réaction, refuse depuis 2018 la catégorie hors compétition. Mais alors que les modes de consommation du 7e art continuent d'évoluer, les pressions s'intensifient pour faire évoluer la règle cannoise. Le délégué général Thierry Frémaux ne serait pas contre, mais il est pour le moment minoritaire au sein du conseil d'administration. À l'occasion de ce 75e festival de Cannes, Thierry Frémaux organise en tout cas un grand colloque de deux jours avec des réalisateurs du monde entier pour évoquer l'avenir du cinéma. Alors que la fréquentation des salles obscures peine à retrouver ses standards d'avant Covid, l'étude sur les plateformes commandée à l'IFOP par l'Association française des cinémas d'art et d'essai et publiée demain sera particulièrement scrutée du côté du Palais des Festivals.
Alexis Demeyer. L'an dernier, c'est Julia Ducournau qui avait reçu la Palme d'Or, deuxième réalisatrice seulement à recevoir cette récompense à Cannes. Elles seront cinq réalisatrices en lice cette année sur 21 films, une de plus que l'an dernier, mais la parité n'est pas encore d'actualité. Bonsoir Laurent Delmas.
Bonsoir Jérôme.
Spécialiste cinéma à France Inter, Laurent, le festival manque-t-il de volontarisme ou bien tout simplement les femmes réalisatrices ne sont-elles pas assez nombreuses ?
C'est une question très complexe, très compliquée. On voit bien qu'avec ce 20%, le festival est au-dessus du panier, c'est-à-dire c'est le chiffre français, 20% de femmes réalisatrices, mais c'est pas du tout le chiffre mondial. La majorité des pays n'atteignent pas ce chiffre de réalisatrices effectives, et surtout pas les États-Unis. Donc ce serait compliqué de toute façon, par rapport à cette réalité-là, d'atteindre évidemment la parité, et voire peut-être juste 30 ou 40%. Je crois qu'il y aurait vraiment une très grande difficulté, vu l'état du monde actuel. On voit que les choses progressent, on voit que dans les pays en Suède, mais aussi en France, il y a une politique volontariste des pouvoirs publics de dire, par exemple, on vous donne plus d'argent si votre recrutement est plus paritaire, si vous avez autant de techniciennes que de techniciens dans un film, si les salaires sont plus paritaires, plus égaux. Il y a des incitations, il y a certainement et évidemment beaucoup, beaucoup de choses à faire.
Pour autant, Laurent Delmas, quand on regarde la sélection, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de films qui traitent de ces questions d'égalité homme-femme dans le sillage des problèmes soulevés par MeToo.
Oui, alors, ce qui est peut-être encore plus notable, parce que c'est vrai que ces thématiques sont là, mais il y a par exemple un nombre tout à fait important de films dont les héros sont des héroïnes. Et par exemple, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a deux films iraniens qui sont en compétition pour la Palme d'Or. Et bien, ces deux films iraniens, ils ont pour héros des héroïnes. On voit bien que l'Iran n'est pas forcément un pays en pointe hein, du côté de la libération de la femme. Et bien, on voit là, à contrario, que le cinéma au fond est en avant-garde, une sorte d'éclaireur des choses. Et effectivement, il y a après des films français, des films américains, des films japonais qui effectivement mettent en avant des portraits de femmes qui sont réalisés par des femmes. Donc il y a une sorte de montée en puissance de ces thématiques-là, bien évidemment.
Merci à vous Laurent Delmas. Ouverture de ce Festival de Cannes 2022 mardi et émission spéciale pour vous samedi prochain, je suppose.
Mais bien sûr, Jérôme, on y sera, comme d'habitude.
Entre 10h et 11h, on aura tout vu, c'est avec Christine Masson. Excellente semaine à vous, Laurent Delmas.
Merci, Jérôme.
Et comme au cinéma, le générique de ce 19h, merci à Alexandre Chénet, Laurent Baudouin qui était aux manettes ce soir, Nicolas Sabat, Stéphane Rousset qui m'ont aidé à le préparer et Anne Patinec qui en assurait la rédaction en chef, le temps.
La météo, avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Jean-Michel Golinski.
En soirée, avec la baisse des températures, les orages de la moitié ouest vont perdre en intensité. Progressivement cette nuit, ces nuages orageux vont gagner vers les frontières du nord et de l'est. Et dans un même temps, l'orange va disparaître de la carte de vigilance. Demain, temps sec autour de la Méditerranée. Ailleurs, le ciel va conserver une dose d'instabilité avec de l'orage, notamment du Massif central au centre, sur la Corse et des Vosges aux Alpes, et des averses passagères ailleurs avec des précipitations souvent plus marquées près de la Manche, du centre au Massif central, sur les Alpes, les Pyrénées et la montagne corse. Avant de grimper à nouveau mardi, demain les températures vont perdre 2 à 4 degrés dans la moitié nord, stationnées à peu près au même niveau qu'aujourd'hui sur les régions méridionales. Mardi, soleil et chaleur vont reprendre les commandes avec de rares ondées possibles des Pays de la Loire, la Bretagne et près des frontières du nord-est.
Jean-Michel Golinski, Météo France.